Chapitre 80, l'exaltation de soi, un piège de Satan. La théorie du pouvoir immanent, quand Satan obscurcit et égare l'esprit humain au point de conduire les mortels à croire qu'ils disposent en eux-mêmes d'un pouvoir immanent pour accomplir de grandes et de bonnes œuvres, ils cessent de s'appuyer sur Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'ils pensent pouvoir faire d'eux-mêmes. Ils ne reconnaissent pas l'existence d'une puissance supérieure. Ils n'attribuent pas à Dieu la gloire qu'il revendique et qui est due à sa majesté suprême et parfaite. Ainsi, l'objectif de Satan est atteint, et il se réjouit de ce que des hommes déchus se glorifient eux-mêmes dans leur orgueil. Quand l'homme prétend être son propre critère, Satan séduit maintenant les hommes comme il le fit pour Ève, en les flattant, en les poussant à rechercher des connaissances défendues, en excitant en eux l'ambition des grandeurs. C'est par ces moyens qu'il amena la chute de nos premiers parents, et qu'il s'efforce de consommer la ruine de l'humanité. Vous serez comme des dieux, dit-il, connaissant le bien et le mal. Le spiritisme enseigne que l'homme est un être progressif. Que sa destinée est de se rapprocher éternellement de la divinité. L'intelligence, nous dit-il, ne connaîtra pas d'autre juge qu'elle-même. Le jugement dernier sera équitable parce que ce sera le jugement de soi-même. Le trône est au-dedans de vous. Un docteur spirit s'exprime ainsi, « Dès que la conscience spirituelle s'éveille en moi, mes semblables m'apparaissent tous comme des demi-dieux non déchus. » Un autre écrit, « Tout être juste et parfait est Jésus-Christ. » Ainsi, à la justice et à la perfection du Dieu infini, véritable objet de notre culte. À la justice parfaite de sa loi, à la norme véritable de l'idéal humain, Satan a substitué la nature pécheresse et faillible de l'homme lui-même, comme seul objet de culte, comme seule règle de jugement, et seule mesure du caractère. Ce n'est pas un progrès, mais une régression. Une philosophie étrangère aux enseignements du Christ, mon attention fut attirée sur ce texte comme s'appliquant particulièrement au spiritisme moderne. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Une vaine tromperie remplit les esprits des pauvres mortels. Ils pensent qu'il y a en eux une puissance suffisante pour accomplir des prodiges et qu'ils n'ont pas besoin de recevoir celle d'en haut. Leurs principes et leur foi reposent sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ. Jésus ne leur a jamais enseigné cette philosophie. Rien de pareil ne se trouve dans ses enseignements. Il n'a jamais dirigé l'esprit des humains vers eux-mêmes, vers un pouvoir qu'ils détiendraient. Il les a constamment encouragés à regarder à Dieu, le Créateur de l'univers, comme à la source de toute force et de toute sagesse. Le verset 18 du même chapitre nous donne encore cet avertissement, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Comment Satan égare les humains, des milliers ont succombé et succombent à des passions avilissantes. Comme couronnement de son œuvre, l'ennemi déclare par les esprits que la véritable connaissance élève l'homme au-dessus de toute loi. Que tout ce qui est légitime. Que Dieu ne condamne pas. Et que tous les péchés commis sont inoffensifs. Dès qu'on en vient à se persuader que le désir est la loi suprême, que liberté est synonyme de licence, et que l'homme ne relève que de lui-même, qui s'étonnera de voir s'étaler de tous côtés la corruption et la dépravation? Des foules acceptent avec avidité des enseignements qui leur donnent la liberté de suivre les inclinations de leur cœur charnel. Les rênes de l'empire sur soi-même sont abandonnées à la convoitise. Les facultés de l'esprit et de l'âme abdiquent devant les inclinations charnelles, et Satan voit avec joie entrer dans ses filets des milliers de personnes professant être disciples de Jésus. Lucifer désire la puissance divine, Lucifer convoitait la puissance de Dieu, mais non son caractère. Il recherchait la première place pour lui-même. Quiconque est animé de son esprit agira de même. Il en résultera la haine, la discorde, la guerre. Le règne appartient au plus fort. Le royaume de Satan est celui de la force. Chaque individu regarde son voisin comme un obstacle à son avancement, ou un tremplin pour s'élever plus haut. L'endurcissement du cœur, ses conséquences, quand Dieu envoya Moïse auprès de Pharaon, celui-ci avait la lumière, mais le monarque s'y opposait, et chaque nouvelle résistance renforçait son endurcissement. Dieu avait-il placé en lui une puissance qui l'empêchait de voir la lumière? Nullement, mais il y avait de sa part indifférence à l'égard de l'évidence. L'endurcissement du Pharaon venait de son refus d'accepter la lumière. Endurcissement et conscience faussée, en lisant les lettres que j'ai envoyées à Auckland, vous aurez une idée de l'endurcissement de l'homme et de sa détermination à faire ce que bon lui semble, d'agir à sa guise. Il n'a pas écouté les conseils du Seigneur et a cru pouvoir marcher d'après ses propres lumières. Il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour être un serviteur de la cause, mais il n'est pas disposé à faire cela même que le Seigneur lui a prescrit comme étant son devoir. S'il devient un traître comme l'a fait Tiréba, il le fera sans doute avec le profond sentiment d'agir selon sa conscience. Cette apparente bonne conscience a été suffisamment mise à l'épreuve. Quand je vous dis que je me méfie de cette bonne conscience, je parle en connaissance de cause, car il existe une bonne et une mauvaise conscience, et l'homme peut à ce sujet s'illusionner totalement lui-même. Induit en erreur, il fera en conscience beaucoup de choses qui sont en désaccord avec l'Esprit de Dieu. Malgré cela, il restera de marbre au conseil ou à toute autre idée, excepté la sienne. Redoutable aveuglement, c'est une bien triste chose que d'être privé des grâces de l'Esprit de Dieu. Mais c'est plus terrible encore d'être dépourvu de spiritualité, d'être séparé du Christ et d'essayer de se justifier en disant à ceux qui s'alarment à notre sujet que nous n'avons nul besoin de leur crainte et de leur pitié. Il est effrayant de constater à quel point on peut se faire illusion sur son propre compte. Quel aveuglement! Prendre la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Le témoin fidèle nous conseille de lui acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, et un collyre pour nos yeux. L'or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Cet or enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur, et plus il a été raffiné, plus il brille. Piégé par l'ennemi, combien futile est le secours de l'homme quand le pouvoir de Satan s'exerce sur un être humain qui est enflé d'orgueil et ne sait pas qu'il participe à la science de Satan. Dans son autosuffisance, il marche tout droit sur le piège de l'ennemi et y tombe. Il n'a pas prêté l'oreille aux avertissements qui lui ont été prodigués, et il est devenu la proie de Satan. S'il avait marché humblement avec Dieu, il aurait accouru au lieu de refuge que le Seigneur lui a réservé. Alors, en cas de danger, il aurait été en sécurité, car Dieu aurait dressé pour lui une bannière contre l'ennemi. Le monde court à sa perte, le monde agit comme si Dieu n'existait pas. Il est plongé dans la recherche de satisfaction égoïste, mais il va bientôt connaître une destruction soudaine à laquelle il n'échappera point. Nombreux sont ceux qui continuent à satisfaire complaisamment leur égoïsme à tel point que, dégoûtés de la vie, ils finissent par se suicider. Comme des bœufs que l'on mène à la boucherie, ces gens dansent et font la fête, boivent, fument et satisfont leur passion animale. Par ses artifices et ses sortilèges, Satan maintient les humains dans l'aveuglement jusqu'au jour où Dieu se lèvera pour châtier les habitants de la terre pour leurs iniquités. Alors la terre dévoilera son sang et ne couvrira plus ses crimes. Le monde entier semble aller au-devant de la mort. Le moi doit être crucifié, quelle victoire vous remporterez quand vous apprendrez à obéir aux divines providences qui s'offrent à vous avec un cœur reconnaissant, et avec la détermination de vivre en recherchant la gloire de Dieu, dans la maladie comme dans la santé, dans le besoin comme dans l'abondance. Le moi vit et frémit au moindre attouchement. Ce moi doit être crucifié avant que vous puissiez remporter la victoire au nom de Jésus et obtenir la récompense avec les fidèles. Le plus incurable des péchés, le Seigneur ne peut s'associer avec ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes, et qui recherchent la première place. Les gens qui agissent ainsi finiront par être les derniers. Les péchés les plus incurables sont l'orgueil et la présomption. Ils empêchent toute croissance. Lorsqu'un homme a des défauts et ne s'en aperçoit pas. Lorsqu'il est si rempli de suffisance qu'il ne peut découvrir ses fautes, comment arriverait-il à s'en débarrasser? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, a dit Jésus, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Comment devenir meilleur si l'on croit être parfait? Un impératif, s'humilier, ceux qui s'imaginent pouvoir se voir la bénédiction de Dieu à cette assemblée, assemblée tenue dans le Michigan, sans humilier leur moi s'en retourneront comme ils y étaient venus. Ils seront aussi angoissés qu'avant. Mais, frères et sœurs, nous ne saurions accepter cela. Humilions nos cœurs devant Dieu. Laissons le Christ oindre nos yeux du collyre céleste afin que nous voyions. Nous ne voulons pas être aveugles, mais nous voulons voir tout distinctement. Nous ne voulons pas marcher un jour en direction de Canaan, et le lendemain rebrousser chemin et marcher vers l'Égypte. Puis le surlendemain reprendre la route de Canaan pour marcher ensuite en direction de l'Égypte. Jour après jour nous devons aller de l'avant d'un pas ferme. Cela me serre le cœur et me remplit d'une profonde tristesse de penser que nous sommes privés des précieuses bénédictions parce que nous sommes tellement éloignés de la lumière. La connaissance de soi conduit à l'humilité, se connaître soi-même est une science précieuse. La vraie connaissance de soi conduit à une humilité qui ouvrira la voie permettant au Seigneur de développer l'esprit, de forger et de discipliner le caractère. Un témoignage pour le monde, celui qui déclare demeurer en lui, Jésus-Christ, doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cette conformité à l'image du Seigneur ne passera pas inaperçue aux yeux du monde. On la remarquera et on en parlera. Le chrétien peut ne pas se rendre compte qu'il y a un grand changement, car plus il ressemble au Christ sur le plan du caractère, plus il a une modeste opinion de lui-même. Mais le changement sera constaté et ressenti dans son entourage. Ceux qui ont fait la plus grande expérience des choses de Dieu sont les moins orgueilleux et les moins suffisants. Ils ont sur eux-mêmes les pensées les plus humbles et les idées les plus élevées de la gloire et de la perfection du Christ. Ils estiment que le rang le moins élevé est trop honorable pour eux. Avoir conscience de ses propres faiblesses, les hommes sont mis à l'épreuve non seulement devant les intelligences humaines, mais devant l'univers céleste. S'ils ne craignent pas et ne tremblent pas pour eux-mêmes, s'ils n'ont pas conscience de leurs propres faiblesses et ne se souviennent pas de leurs défaillances et ne s'efforcent pas de ne pas y retomber, ils commettront les mêmes erreurs inévitables qui seront suivies des mêmes conséquences. La victoire sur le moi, l'œuvre de toute une vie, on ne peut réformer sa conduite par quelques efforts faibles et intermittents. Former un caractère n'est pas l'œuvre d'un jour, ni d'une année, mais de toute une vie. Se vaincre soi-même, conquérir la sainteté et le ciel exige une lutte qui ne se termine qu'avec notre existence. Sans effort continuel, sans activité constante, il n'y a pas de progrès ni de couronne triomphale. L'empreinte du divin, veillons à ce que le moi ne prenne pas des proportions démesurées, de peur que l'homme tout entier n'en soit souillé. Une seule voie d'eau fera couler un navire, et une seule défectuosité brisera une chaîne. De même, quelque trait de caractère héréditaire ou cultivé peut agir dans le cœur et se traduire par des paroles qui créeront un penchant irréversible au mal. Nous bâtissons tous en vue de l'éternité. Que le caractère reçoive l'empreinte du divin par des propos nobles et des actes intègres. Ainsi, l'univers céleste regardera et dira, « Bien, bon et fidèle serviteur ».